la 68e, je reçois Clotilde Imbert. Bonjour Clotilde.
Bonjour Abel.
Alors, Clotilde Imbert, vous êtes française?
Tout à fait.
Mais vous travaillez, vous avez une carrière un peu partout
Alors, j'ai une carrière en partie danoise et aussi française, puisque je travaille pour la société Copenhagen Ice Company, qui
D'accord.
est une société danoise.
D'accord, je suis content que vous l'ayez dit, parce que je n'arrive pas à le dire, et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein.
C'est vrai, c'est pour ça très simple, Copenhagen Ice, comme la ville, et après IZE, c'est-à-dire qu'on transforme les villes sur le modèle de Copenhague.
D'accord. Vous êtes dans cette compagnie depuis longtemps?
Ça fait plus de 6 ans maintenant.
Ah d'accord, non, c'est pas si long que ça.
Quand même.
Et alors avant, qu'est-ce que vous faisiez ?
Avant, j'étais en Île-de-France. Je travaillais dans une société d'économie mixte en Île-de-France et je m'occupais notamment d'un projet urbain à Ivry-sur-Seine. Donc ça doit parler aux auditeurs franciliens.
D'accord. Et vous avez aussi fait des trucs en rapport avec le train et le vélo ?
Alors oui, effectivement, je me suis occupée pendant 3 ans d'un projet européen sur l'intermodalité entre le train et le vélo pour la promotion de ce mode de déplacement en Europe, mais ça faisait partie de mon travail à Copenhagen Ice.
Ah d'accord, vous y étiez déjà. Mais à ce moment-là, par contre, vous travaillez à Bruxelles, non ?
À cette époque-là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai habité Copenhague, j'ai commencé à travailler pour Copenhagen Ice quand j'étais à Copenhague. Et ensuite, donc je suis associée de cette société danoise. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai fondé Copenhagen Ice France, qui est le bureau francophone de Copenhagen Ice. Alors, il se partage entre la Belgique et la France, mais je travaille aussi en Suisse. Et puis, ces derniers temps, j'ai travaillé pour la ville d'Amsterdam, pour la ville de Montréal. Et en ce moment, je travaille pour la ville de Lisbonne et de Bruges. Donc, finalement, on n'a pas trop de frontières à Copenhagen Ice.
D'accord, mais ça vous permet en particulier de pouvoir comparer des pratiques différentes dans toutes ces villes ?
Et voilà, ça, c'est une des grandes forces de notre société à Copenhagen Ice Design Company. C'est qu'on a énormément de chance de pouvoir voyager pour nos clients. Et en fait, on est un peu des messagers d'une ville à l'autre des meilleures pratiques cyclables.
D'accord.
Et effectivement, on se concentre beaucoup sur le modèle de Copenhague, qui est un modèle de ville cyclable exemplaire, mais en même temps, il y a aussi d'autres villes qui sont en train d'émerger, qui sont parfois de taille plus petite ou de taille plus grande et qui ont des modèles très intéressants. Dans les tailles plus petites, je pense notamment à la ville de Gand, qui est une ville cyclable très intéressante. Voilà. Et donc, du coup, on est un peu des messagers et on passe les bonnes pratiques d'une ville à l'autre, tout en sachant s'adapter à chaque fois au contexte local.
D'accord. Alors, aujourd'hui, en France, on commence à vouloir regarder un petit peu à l'extérieur ce qui se fait de bien et on essaye de s'aligner sur le mieux. Alors, il y a quand même deux modèles qui ont l'air de s'opposer, qui sont assez proches. C'est celui de Copenhague et celui d'Amsterdam. Alors, j'ai reçu, moi, récemment, les auteurs français du guide de Paris en selle, que vous devez connaître.
Tout à fait.
Et qui prônent à fond le modèle hollandais, qui de temps en temps disent un peu de mal du modèle danois. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différences ?
Alors moi, c'est deux modèles qui sont différents, mais je ne les opposerai pas. Parce que ce sont deux modèles qui ont les caractéristiques communes d'avoir des pistes cyclables séparées très qualitatives, qui permettent véritablement à tous les types d'habitants de se déplacer en toute sécurité et qui ont aussi pacifié assez drastiquement la circulation automobile dans les quartiers résidentiels.
D'accord.
Donc, alors, je ne sais pas ce que Paris en selle oppose, en tout cas, entre ces deux modèles. Il y a des différences, certes. Je sais que le modèle hollandais a davantage montré, avec des concepts comme la rue vélo, la pacification du trafic automobile dans les quartiers résidentiels, ce que Copenhague a moins montré, mais ça s'est fait de manière... ça s'est fait un peu de la même façon, en complexifiant énormément le plan de circulation dans les quartiers résidentiels, ce qui fait que les automobiles se trouvent tous sur les boulevards et qu'un Français qui arrive à Copenhague, s'il n'a pas envie d'explorer la ville, il va avoir une image fausse du modèle de Copenhague. C'est-à-dire qu'il va prendre son vélo, rester sur les gros boulevards où il va trouver des pistes cyclables extrêmement larges, 2,5, 3,5 mètres de large, où il s'y sent en toute sécurité. Par contre, il va encore avoir l'impression d'être dans un modèle de rue avec beaucoup de circulation, beaucoup de voitures. Et effectivement, les voitures, elles sont sur les gros boulevards. Par contre, s'il rentre dans un quartier résidentiel, que pour les gens qui connaissent Copenhague, soit Nørrebro, Vesterbro, moi, quand j'arrive avec un groupe de Français, on rentre dans le quartier résidentiel, on fait 10 minutes de vélo. Après, je m'arrête et je leur dis, Ben voilà, ça, c'est l'autre partie du modèle danois. Mmh. Là, sur les 10 minutes, est-ce que vous avez vu des voitures? Et souvent, ils sont là, ils font, ah ben non, peut-être une, deux voitures. Mmh. Et là, souvent, ce que je fais, c'est que je m'arrête devant une école. Et là, je fais regarder autour de vous, on a donc du coup des bâtiments résidentiels et on a aussi une école. Et regardez l'école, elle n'a pas de portail, elle n'a pas de mur autour. L'école, la cour d'école est complètement ouverte sur la rue et c'est complètement sûr parce que cette rue, il n'y a plus de voitures, il y a essentiellement des vélos. Et là, ils sont très étonnés et à partir de ce moment-là, ils comprennent véritablement ce qu'est le modèle danois.
D'accord. Et ça, à votre avis, c'est le plus important?
C'est la dualité du système, oui, tout à fait.
D'accord. Alors, on va le dire tout de suite, là, on en reparlera tout à l'heure. Donc, vous organisez une masterclass, comme vous dites.
Oui.
Alors, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, la masterclass, elle a lieu depuis maintenant au moins six ans à Copenhague. Mmh. C'est 3 jours où on a des gens du monde entier qui viennent nous voir. On a tous nos bureaux, toutes nos équipes qui sont là. Et pendant 3 jours, on passe avec eux du temps et on leur explique tout ce qu'on sait sur l'urbanisme cyclable, tout ce qui se fait de mieux partout, on leur explique que ce soit sur comment concevoir des infrastructures cyclables, quels sont les meilleurs services et comment on communique auprès de la population sur la mobilité cyclable. Copenhagenize est une des sociétés qui a contribué à changer l'image du cycliste, c'est tant mieux et on leur explique ça également. Et puis surtout, on est à Copenhague, donc on passe 3 jours à faire du vélo et on passe 3 jours à leur montrer ce que c'est qu'une ville cyclable. Parce que nous, à la société, il y a une chose qui est très importante, c'est de montrer que le vélo est en fait un outil pour créer des villes plus agréables à vivre. Donc c'est un outil pour un urbaniste. Alors voilà, c'est ça qu'on leur apprend à Copenhague. Mais maintenant, on a décidé de faire voyager la masterclass. Et on a appelé ça la masterclass to go. Et c'est en France qu'on a lancé la toute première masterclass to go. C'était à Bordeaux. Mmh. C'était au mois d'octobre de l'année dernière. Et j'avoue qu'on était, on était ravis. On a eu 12 participants de 10 villes françaises différentes. Ils sont venus de toute la France.
C'est quoi, des élus, des techniciens des...
Alors, donc à Bordeaux, on a eu essentiellement des techniciens, des gens de collectivités. Je pense à la ville de Brest, par exemple. On a eu beaucoup de personnes d'agences d'urbanisme, de la ville de... On a eu Tours... Avignon, Nîmes, voilà. On a eu des personnes qui travaillent pour des élus. Je pense notamment à un collaborateur du maire de la maire d'Amiens. On a eu des scientifiques, de quelqu'un d'une école d'ingénieurs de La Rochelle. Donc voilà. Donc,
c'est un panel assez large.
C'est un panel assez large. Après, d'accord, c'est des gens qui, au quotidien, travaillent sur le vélo. Et on avait aussi une personne d'une société d'économie mixte à Angers qui nous a dit, mais pour moi, c'était un changement de conception totale sur la façon de considérer le projet dans mes projets urbains. Donc il a dit, il y a vraiment un moment avant et après cette masterclass. Et là, si je suis en transit à Paris, c'est parce que je vais à Angers demain pour faire une masterclass dans cette société d'économie mixte auprès de 35 de leurs agents. Donc voilà, donc la masterclass continue. Mmh. Et surtout, elle arrive à Paris bientôt.
D'accord. Alors c'est quand, les dates?
Donc c'est le 28 et 29 avril à Paris. Mmh. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc c'est possible de s'inscrire. Et donc, c'est 2 jours où on va avoir des présentations que nous, Copenhagenize, allons faire. On va avoir des ateliers où on va montrer tous les outils qu'on utilise pour analyser les cyclistes, pour comprendre les cyclistes, pour concevoir les infrastructures. Voilà, on va avoir aussi des intervenants extérieurs qui vont venir parce qu'à chaque fois qu'on fait une masterclass to go dans une ville, on va s'intéresser à la ville dans laquelle on va. Donc, Paris, c'est extrêmement intéressant d'être à Paris en ce moment. La ville de Paris va venir présenter le plan vélo. Île-de-France Mobilité va venir présenter l'intermodalité entre les vélos et les transports en commun. Donc voilà, donc on va dire un programme assez varié entre des présentations, des ateliers, des moments de rencontre. Et puis, je suis venue avec un scoop et avec quelque chose qui ne sont pas encore dans le programme qu'on a diffusé il y a quelques semaines. Mais voilà, j'ai quelques scoops que j'ai effectivement gardé à Belle. C'est qu'on a décidé de faire un tour à vélo de nuit et que c'est Go Bike Paris qui va nous accompagner pour un tour à vélo de nuit pour montrer à quel point Paris est devenue une ville cyclable. Donc, on va faire un tour l'après-midi, on va faire un tour à vélo, des infrastructures, on va observer les cyclistes, on va les compter, ça c'est vraiment partie du programme. Mais le soir, on a toujours un moment où on peut plus convivial, où on peut échanger, et on a décidé de rester sur les vélos pour le moment convivial, et on fera un tour à vélo de nuit.
D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, là, c'est qu'est-ce qu'à Paris, par rapport à ce qui se fait, vous avez remarqué qu'il y a eu un gros effort qui a été fait ces deux dernières années.
Hein ? Oui, tout à fait.
Il y a des grosses différences quand même par rapport à ce que vous prenez à Copenhagenize.
Il y a des grosses différences et en même temps, il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Mmh. À Paris, un des problèmes qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était une discontinuité du réseau, ouais, et un problème de qualité d'infrastructure avec des pistes cyclables quand elles existaient qui étaient trop étroites ou alors des bandes cyclables sur les trottoirs. Mmh. Ce qu'on a vu arriver ces dernières années, c'est une plus grande cohérence du design de ce qu'est une piste cyclable à Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'on a commencé à standardiser ça, et ça, c'est extrêmement intéressant pour que la personne qui arrive à Paris sache que c'est qu'une piste cyclable et où il doit se trouver. C'est important pour le cycliste, c'est important pour le piéton qui doit identifier la zone pour les cyclistes et pour l'automobiliste également. Donc ça, c'est intéressant. Après, dans les parties plus critiquables, sur le réseau express vélo, et je pense notamment à la rue de Rivoli, la rue de Rivoli, quand on voit le verre à moitié plein, c'est quand même hallucinant politiquement qu'ils aient réussi à aller au bout de ce projet. On traverse Paris de manière relativement sécurisée sur son vélo. C'est top, ça n'existait pas, tant mieux. Quand on voit le verre à moitié vide, c'est une piste bidirectionnelle. Y a un problème de perméabilité et de connexion avec les autres rues, notamment quand on arrive du nord et qu'on a du mal à rejoindre cette piste cyclable. Et il y a un problème de traitement des intersections.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va marquer une pause maintenant parce que je voudrais justement qu'on discute de la différence, c'est-à-dire des pistes bidirectionnelles à Paris.
Très bien.
Cause commune. Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, mon petit, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? La grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien. Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Thank you.
Rayon Libre, je reçois Clotilde Imbert. Alors Clotilde, justement, je vous arrêtais parce que je voudrais qu'on ait une discussion sur les pistes bidirectionnelles, parce que moi j'ai la conviction, vous allez me dire ce que vous en pensez, que le modèle de la piste bidirectionnelle à Paris, il s'est imposé. C'est-à-dire que les cyclistes y sont maintenant habitués, que moi je pensais que c'était pas un bon modèle et que maintenant je l'apprécie beaucoup. Ça a en particulier un avantage, c'est que à service égal, ça prend moins de place et ça coûte moins cher de faire une piste bidirectionnelle que deux unidirectionnelles. Alors, est-ce que...
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça prend moins de place et ça coûte moins cher. C'est un argument que forcément une ville va avoir en tête. Mais en même temps, nous, à Copenhagenize, on commence toujours par prendre en compte l'usager et ses besoins. Et donc, du coup, l'usager va, de notre point de vue, préférer une piste unidirectionnelle parce qu'elle est d'une part plus intuitive, c'est-à-dire qu'elle est dans la circulation. Les intersections sont beaucoup moins complexes. Il n'y a aucune chance qu'un cycliste qui veuille tourner, qui doive traverser la piste cyclable qui vient en contresens pour après tourner, se retrouve au milieu d'un flux de cyclistes qui arrive du coup de tous les côtés. Des choses qu'on a observées à Amsterdam où il y a des flux très importants.
Mais ça, c'est aussi parce que il y a une conception qui existe depuis longtemps, chez vous comme en Hollande, sur les pistes unidirectionnelles à droite. Mais si on étudiait vraiment le modèle de la piste bidirectionnelle et qu'on faisait des carrefours adaptés en fonction de ça, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire en sorte que ce modèle fonctionne ?
Mais je pense qu'il faudrait faire des carrefours. Déjà, ce serait complexe. Pensez le carrefour bidirectionnel, il est complexe. Si jamais on arrive à le faire, il prendrait de la place. Donc, ça fait partie du travail de Copenhagenize d'observer les cyclistes et d'essayer de reconcevoir les infrastructures et notamment les carrefours par rapport aux cyclistes. Quand on a du bidirectionnel, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment à Lisbonne, on ne trouve pas de bonnes solutions pour faire passer tous les mouvements tournants, notamment quand on a le croisement de deux pistes cyclables bidirectionnelles, ce qui vient complexifier encore plus les choses. On ne trouve pas de choses qui puissent convenir à la totalité des mouvements tournants, à droite, à gauche.
Mais vous voyez bien, par exemple, que la piste cyclable, je ne sais pas si vous l'avez pratiquée, de la rive gauche de la Seine, c'est le fait qu'elle soit bidirectionnelle, comme elle est au bord de la Seine, ça facilite les choses, en particulier dans la traversée de tous les carrefours. C'est-à-dire elle passe tous les carrefours en ligne droite, alors que sinon, si elle était de chaque côté, il y aurait au moins un côté où elle devrait passer sur le côté de manière un peu moins facile.
Il y a certaines situations où la piste bidirectionnelle peut s'expliquer. C'est quand on va longer une rivière, quand on va longer des voies ferrées, par exemple, et qu'on a relativement peu d'intersections et qu'on a aussi assez peu d'usagers. À Paris, et pour avoir fait des comptages sur la Seine notamment, nous, ce qu'on avait expliqué à la ville de Paris, c'est qu'il fallait faire attention au fait qu'à Paris, il y a des flux qui sont dans les deux sens. Par exemple, si je compare avec Montréal, où à l'époque, on travaillait en même temps sur les pistes bidirectionnelles. Montréal, le matin, tout le monde va dans un sens, direction centre-ville, tout le monde remonte le soir. C'est-à-dire que leurs pistes bidirectionnelles, d'une certaine manière, elles fonctionnent dans les deux sens, mais avec des gros flux principaux, le matin et l'inverse.
C'est là qu'il y a un avantage en termes de surface, quand même.
Oui, mais par contre, ce n'est pas le cas à Paris. À Paris, quand on est dans le centre-ville, eh ben, on n'est pas... Pas à 50-50, mais pratiquement entre les gens qui vont est-ouest et de l'ouest vers l'est.
Très rapidement, dès qu'on sort du centre, on arrive quand même à des endroits qui sont assez dissymétriques aussi.
Mais dans le centre,
ça dépend où. Dans le centre-ville. Et l'ouest aussi.
Ouais, tout à fait.
Oui. Mais donc, c'est des choses dont vous discutez avec la ville de Paris.
À l'époque où j'avais eu une mission pour la ville de Paris, c'est des choses qu'on avait discutées ensemble, effectivement.
Parce que moi, je pense que les cyclistes parisiens s'y habituent et que le jour où ils auront des pistes unidirectionnelles, ils auront l'impression que c'est de moindre qualité.
Mais ils en ont des pistes unidirectionnelles. Et d'ailleurs, je pense que les bidirectionnelles, ça va être les grands réseaux traversants de Paris, la Seine, Rivoli. Par contre, quand je vois celle qui est maintenant finie, rue Le Courbe, elle est unidirectionnelle.
Oui, mais elle n'est que dans un sens.
Oui.
Et on n'a pas la place de faire la même chose de l'autre côté sur une roue comme la rue Le Courbe. Et il y a beaucoup de rues comme ça qui sont à Paris relativement larges, mais dans lesquelles l'insertion de deux pistes unidirectionnelles est complexe, en plus du fait qu'il y a parfois des couloirs de bus.
Oui.
Et il y a beaucoup de villes dans lesquelles il n'y a pas de couloirs de bus. À Copenhague, il y en a, par exemple ?
Il y a quelques couloirs de bus, mais il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup moins qu'à Paris, effectivement.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le... Là, on a bien fait de la pub pour votre... pour votre masterclass et pour ce qu'il y aura à apprendre. Et je le fais volontiers, c'est pas pour vous faire de la pub, mais parce que ça rentre dans, dans ce que j'essaye de faire. Je voudrais qu'on revienne... en particulier, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'histoire du train et du vélo. Je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était...
Alors, à l'époque,
ça avait un nom bizarre aussi.
Oui, le projet européen, il s'appelait BTB,
voilà.
Qui était pour Bike, Train, Bike. Mmh. Ok, ce n'était pas si facile que ça à retenir. Mmh. Mais en tout cas, le concept, à l'époque où j'ai commencé, donc j'ai dû commencer ce projet-là il y a 5 ans, j'ai expliqué aux gens, le train, on prend le vélo, le train, le vélo. Ça ne parlait pas aux gens. Vraiment, cette intermodalité, ça ne leur paraissait pas naturel. Au bout de 3 ans, les choses avaient changé. Alors nous, on avait beaucoup communiqué, mais je crois que les gens avaient aussi évolué dans leur manière de concevoir les trajets de porte à porte et étaient beaucoup plus ouverts à l'intermodalité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'usagers, paraît simple. Mais faut-il encore à la fois que les villes, que les sociétés de train et que les sociétés qui fournissent des vélos aient travaillé ensemble pour que ce trajet de porte à porte soit le plus simple pour l'usager.
Mais alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce projet ?
Alors, les projets européens, c'est des financements européens avec des projets de 3 ans. Et bien, une fois qu'on n'a plus de financement, le projet s'arrête.
Parce qu'en France, il y a une baisse quand même. Visiblement, la SNCF est beaucoup moins intéressée qu'elle l'a été par le transport des vélos, où ça baisse dans tous les centres de train. Vous suivez ça ?
Nous, l'intermodalité train et vélo... C'était le parti pris de ce projet-là. Mmh. C'était pas sur l'embarquement des vélos dans les trains. C'était véritablement, je pars de chez moi avec mon vélo, je vais à la gare et là, je trouve un super parking à vélo.
Donc, dans le stationnement, en agglomération.
Voilà. Et après, ce qui était super intéressant, c'est qu'après, on prenait le train. Et quand on arrivait à la gare de destination... on trouvait un vélo à louer. Et d'une certaine manière, on va me dire, mais en France, des vélos à louer, quand j'arrive à la gare, je peux prendre le Vélib, j'arrive à Bordeaux, j'en trouve un autre, à Nantes, il y a le Bicloo. Mais là, c'est complètement différent. Aux Pays-Bas, c'est différent aussi de ce que je vis quand je suis en Belgique. C'est qu'en Belgique, par exemple, j'ai le Blue Bike. J'ai un vélo qui est absolument le même partout où je vais dans tout le pays. Mmh. Donc, j'ai une seule carte. Et là, j'étais à Bruges samedi dernier, j'arrive à la gare, je monte sur mon vélo, qui est le même que quand j'arrive à Anvers, qui est le même que quand j'arrive à Namur, ça me coûte le même prix, il fonctionne de la même façon. Il est très robuste, c'est des vélos de ville.
Ça ressemble au Vélib ou pas ?
Ça ressemble pas au Vélib, justement, ça ressemble vraiment à un vélo de ville, un vélo de ville assez, assez classique, avec un bon panier. Moi, j'arrive toujours à mettre ma valise dessus, donc quand j'arrive de la gare, c'est parfait.
Et alors, l'abonnement, il coûte combien, par exemple ? Sur tout le pays ?
Alors, c'est un abonnement. Pour tout le pays, je paye maintenant 12 euros. C'était 10 euros il y a encore quelques années. Maintenant, c'est 12 euros par an. Donc, c'est quand même rien. Et après, c'est 3,10 € par 24 heures. Et là, je garde mon vélo tout le temps avec moi.
D'accord. Donc, ça revient beaucoup moins cher que le Vélib.
Mais complètement.
Ouais.
Alors, d'une certaine manière, ça revient moins cher, mais ça reste... C'est pas la location de vélo que les gens vont prendre tous les jours. Par contre... Moi qui travaille dans plusieurs villes de Belgique, où je m'y rends une fois par mois, 2 fois par mois, c'est vraiment très efficace et financièrement très intéressant.
D'accord. Alors, en France, c'est difficile à faire parce que pour des raisons institutionnelles, en fait.
Alors, en France, c'est difficile à faire, je ne sais pas. Il faudrait que la SNCF décide de gérer des vélos. Aujourd'hui, ils gèrent des trains, il faudrait qu'ils décident de gérer des vélos. C'est eux, politiquement, qui décident si c'est compliqué ou pas.
Parce que là, dans les villes dont vous parlez, c'est pas les collectivités locales.
C'est la
SNCB.
Alors, c'était la SNCB et en fait, Blue Bike appartenait à la SNCB par une société, une sorte de filiale, qui s'est fait racheter par les transports en commun flamands. Mais au départ, c'était en gros une émanation de la SNCB. Aux Pays-Bas, où ça existe depuis encore plus longtemps, les OV-FITS, qui sont disponibles dans tous les Pays-Bas, c'est géré par NS, la Société Nationale de Train des Pays-Bas.
La SNCF néerlandaise.
C'est ça.
Voilà. Donc, en fait, rien n'empêcherait que ça se fasse en France si la SNCF s'en occupait.
Bien sûr, ce serait envisageable.
Ou est-ce que ça pourrait être une société de service qui s'adresserait à la SNCF ?
Faudrait-il encore qu'ils collaborent correctement ? Parce que nous, ce qu'on a vu quand on a monté le projet en Angleterre, c'est qu'il faut quand même une très bonne coordination entre la société de train et la société de vélo si on veut que ce soit un véritable succès. Au sens où il faut que la société de train fasse de la publicité pour ça. Par exemple, NS va faire un abonnement commun entre le train et l'abonnement du vélo. Ils vont avec une seule et même carte, on peut monter dans le train, on peut louer peut louer un vélo et on peut accéder au parking de vélo. Où on peut avoir, par exemple, comme en Angleterre, au moment de lancement de ce service dans certaines villes, les gares qui étaient recouvertes de publicité pour les vélos. Pour l'instant, effectivement, la SNCF, je ne l'ai pas vu recouvrir ces gares de vélos.
Non, mais il fut un temps, mais ça remonte à très longtemps, où effectivement, la SNCF faisait de la pub pour la location de vélos qu'elle faisait, mais ça... Ça date d'une trentaine d'années, hein, c'était...
D'accord.
Donc, en fait, il suffirait que quelqu'un s'y mette et vende le projet à la
SNCF.
Voilà. Alors, Clotilde, on va bientôt terminer. Vous avez fait autre chose encore que ces deux-là ?
Que ces deux-là ? Oh, des projets, on en a fait plein dans plein de villes. On a notamment, si on est à Copenhagen, ils sont assez connus pour avoir... fait l'analyse des lignes de désir des cyclistes. On avait présenté ça dans plusieurs congrès. Là, je suis en train de travailler pour la ville de Lisbonne à ce sujet. On l'a fait pour la ville d'Amsterdam. Alors, à Amsterdam, on est ravis parce que c'est eux qui nous ont demandé à utiliser notre outil d'analyse, c'est-à-dire qu'on filme les carrefours, on compte les cyclistes et on analyse toute leur trajectoire. Et basé sur l'analyse des trajectoires, on redessine les carrefours qui ont souvent été pensés pour la voiture. Mmh. Alors, aux Pays-Bas, c'était pas tout à fait ça. À Amsterdam, c'est juste qu'ils avaient tellement de cyclistes, en fait, que ça mettait sous pression l'infrastructure en tant que telle. Et basé sur nos recommandations et tout le travail qui a été fait de manière remarquable par la ville d'Amsterdam, ils ont remis en cause le modèle d'intersection hollandaise qu'on connaît si bien avec son petit îlot protecteur, la petite zone d'attente, parce qu'elle était sous pression d'un nombre de cyclistes très important, notamment aux heures de pointe du matin.
Très bien. Clotilde Imbert, je vous remercie d'avoir participé à cette 68e émission de Rayon Libre.
Merci beaucoup, Abel.